Vous écoutez On lit pour vous.
Qui dit inclusivité dit équilibre, un éditorial de Jean-Philippe Giroux, paru le 28 juillet dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Au cours des derniers mois, le Courrier a visité les 12 communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse pour répondre à une grosse question. Comment la presse écrite peut-elle être plus inclusive? La solution n'est ni évidente ni noire et blanche, car la Nouvelle-Écosse est un théâtre de diversité linguistique, ce qui se traduit par une divergence d'opinion et de perspective. La langue est un fait social. Malgré les efforts de standardisation de certains groupes, on n'est jamais arrivé à freiner son cheminement. L'évolution de la langue est aussi humaine que l'humanité. Avant le français, une langue romane, et l'anglais, qui fait partie de la famille des langues germaniques, il y avait l'indo-européen, une langue hypothétique qui est à l'origine de multiples groupes linguistiques du 21e siècle. Avec le temps et la dispersion géographique, les locuteurs de cette langue ont développé de nouvelles langues, selon cette théorie. Il n'y a pas de consensus autour de l'origine de la diversité linguistique, mais on peut tirer des conclusions en se fiant à notre réalité moderne. Pourquoi est-ce qu'un Australien, un Anglais et un Appalachien pourraient avoir de la misère à se comprendre, même si la base de leur langue est la même? Pourquoi est-ce qu'un Acadien, un Maghrébin et un Québécois choisiraient d'utiliser l'anglais pour converser, malgré le fait qu'ils sont tous francophones? Comme la langue indo-européenne, qu'elle soit réelle ou non, le français n'évolue pas en vase clos, et il faut mettre en valeur cette belle facette de l'expérience humaine. Mais pour ce faire, il faut trouver l'équilibre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Dans mon quotidien, je dois penser à plusieurs choses quand je révise un texte. Il faut que je pense au lecteur, qui doit être capable de comprendre, mais je dois aussi penser à l'auteur, qui tient à être représenté fidèlement et à reconnaître sa plume. Je ne peux non plus oublier les exigences nationales en matière de rédaction, compte tenu du fait qu'on fait partie d'un plus grand réseau de journaux francophones. Bref, la seule option est l'équilibre. J'ai donc fixé 3 objectifs pour le Courrier qui, selon moi, peuvent se concrétiser facilement. Une miette pour toutes et tous. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut quand même s'essayer. Non, on ne peut pas tout faire, mais on peut offrir une miette de tout pour que chacun puisse avoir un petit quelque chose qui correspond à ses intérêts. Que ça soit une chronique en acadienne, comme notre musique de côte à côte, ou un texte scientifique vulgarisé, il y a un éventail de contenus à produire. Il y a aussi la question de la représentation. Non, on ne peut pas être partout tout le temps, mais on peut se concentrer sur différents sujets à différents moments de l'année, afin de s'assurer que plus de gens se sentent représentés et entendus. Finalement, il peut y avoir de la diversité linguistique dans les lignes d'un même article entre l'écriture du journaliste et les citations des interviewés. Tout bien mélangé. Un autre défi est de publier du contenu dans un français à la hauteur de notre lectorat. Mais quand il y a autant de registres de langues sur un même territoire, quel est le plafond en question? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse objective à cette question. Il faut tout simplement se mettre à la place de plusieurs personnes en même temps pour trouver un équilibre. Des outils pour y arriver seraient, entre autres, d'incorporer des lexiques pour définir les mots qui ne peuvent pas être remplacés, de simplifier certaines phrases et de trouver des synonymes moins compliqués. Mais, comme mentionné lors de l'une de nos rencontres, il ne faut pas tout enlever. Car le journal est là également pour l'apprentissage du lecteur. Bref, c'est de mettre en place des outils pour trouver un équilibre entre un français universitaire, qui n'est pas compris par tout le monde, et un français plus populaire, qui, lui aussi, n'est pas familier pour tous les lecteurs. Contenu multimédia. Les gens veulent plus d'images, plus de vidéos, plus de contenu ludique dans les infolettres. Je suis d'accord. On est au 21e siècle, il faut se brancher. C'est aussi un excellent moyen de faire rayonner des accents et des parlers, ce qui se perd lorsqu'on passe à l'écriture. Ma seule inquiétude est que ce type de contenu journalistique éclipse les textes. Je n'ai rien contre le contenu multimédia, je l'adore. Pour certaines nouvelles, c'est la manière la plus digeste de présenter le sujet. Cela dit, si l'écriture prend le bord, on n'est plus un journal et on cesse d'exister. Dans une société en évolution perpétuelle, on doit trouver l'équilibre et ce, au rythme de notre monde. Ce n'est pas toujours évident de créer un média inclusif, mais au bout du compte, quand on voit que ça a un impact réel, on se dit que ça en vaut la peine. C'était « Qui dit inclusivité dit équilibre », un éditorial de Jean-Philippe Giroux, paru le 28 juillet dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Pourquoi le prix des propriétés ne baisse pas plus rapidement? Un texte signé Michel Girard, paru le 10 août dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Le marché immobilier et résidentiel fait preuve d'une étonnante résilience en cette période de taux hypothécaires relativement élevés. Le volume des ventes a eu beau baisser de 20 % lors des 7 premiers mois de l'année par rapport à la même période de janvier à juillet 2022, les prix de vente, eux, restent étonnamment solides malgré la très forte hausse des taux hypothécaires. Je vous rappelle qu'au début de 2022, il était possible de se négocier une hypothèque de 5 ans à un taux d'intérêt pouvant varier de 2,4 à 2,7 %. À la suite de la flambée du taux directeur de la Banque du Canada, lequel est passé de 0,5 % à 5 %, le taux hypothécaire du terme de 5 ans joue maintenant dans la fourchette allant de 5,4 à 6,7 %. Il a donc plus que doublé en l'espace d'à peine 18 mois. Oh, surprise! Bien qu'il en coûte aujourd'hui énormément plus cher pour hypothéquer une propriété, cela n'a pas eu pour effet de faire chuter de façon importante le prix de vente des propriétés au Québec. En effet, en termes de prix, le marché immobilier de la revente est resté quasi indifférent ou insensible face à la forte augmentation des taux hypothécaires, laquelle augmentation semble couler sur le dos des acquéreurs comme de l'eau sur le dos d'un canard. La maison baisse de 6 %. Dans l'ensemble du marché provincial, selon les données de l'APCIQ pour le mois de juillet, l'unifamilial s'est vendu en juillet à un prix médian de 421 000 $ en baisse de 6,5 % par rapport au sommet historique, 450 000 $, atteint en avril 2022. La copropriété, elle, s'est revendu à un prix médian de 360 000 $ en recul de 6,2 % à comparer à prix record 384 000 $ d'il y a 15 mois. L'hypothèque grimpe de 31 %. Voyons maintenant de façon plus concrète l'impact de la forte hausse des taux hypothécaires sur le financement de l'achat d'une propriété. Pour ce faire, je vais comparer ce qu'il en coûte aujourd'hui pour financer l'acquisition des propriétés type cité précédemment, à comparer à ce qu'il en coûtait en avril 2022 lors du sommet historique du marché immobilier résidentiel. Les calculs sont basés sur une hypothèque d'un terme de 5 ans, amortie sur 25 ans. Je ne tiens compte d'aucune mise de fonds afin de comparer des pommes avec des pommes. Pour les fins de l'exercice, je vais utiliser pour avril 2022 le taux d'intérêt hypothécaire de 2,7% et pour ce mois de juillet 2023, le taux hypothécaire moyen de 6,0%. Lors de son prix record de 450 000 $ en avril 2022, le paiement mensuel de l'unifamilial type s'élevait à 2061 $. Aujourd'hui, l'unifamilial type, dont le prix médian a baissé à 421 000 $, nécessite un paiement de 2 694 $ par mois. Ainsi, malgré une diminution du prix médian de 6,5%, il en coûte maintenant près de 31% de plus pour financer la même maison type au Québec. Du côté de la copropriété type, on constate sensiblement les mêmes écarts de pourcentage. À 384 000 $, le paiement de l'hypothèque en avril 2022 s'élevait à 1 759 $. Aujourd'hui, même si le prix médian a chuté à 360 000 $, moins 6,2%, l'hypothèque, elle, a augmenté à 2 303 $ par mois, en hausse de 31%. Par rapport au début de 2022, le paiement mensuel par tranche de 100 000 $ d'hypothèque pour le terme de 5 ans a augmenté de 182 $, passant de 458 $ à 640 $. L'énigme. On parle ici d'une spectaculaire hausse de paiement hypothécaire de près de 40% en quelques 18 mois. Et pendant ce temps-là, que les prix médians des propriétés type n'aient baissé que d'à peine 6% par rapport au prix record d'avril 2022, ça reste une énigme. Est-ce en raison du fait que nombre d'acquéreurs étaient eux-mêmes des propriétaires qui ont vendu à prix élevé? Les jeunes ménages se disent peut-être que c'est le temps ou jamais de devenir propriétaire et qu'à long terme, les prix vont continuer de monter? Ou sont-ce les parents moindrement bien nantis qui les aident financièrement? De nouveaux arrivants et nombre de ménages québécois croient peut-être que les prix au Québec restent relativement peu élevés à comparer aux prix des propriétés dans les autres grandes provinces canadiennes et grandes villes, et qu'en conséquence, ils y voient un important potentiel de plus-value malgré les coûts de financement hypothécaire qui ont explosé. Pourquoi les prix ne baissent pas? La réponse réside dans toutes ces hypothèses. C'était « Pourquoi le prix des propriétés ne baisse pas plus rapidement? » un texte signé Michel Girard, paru le 10 août dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Une bonne poignée de main est un signe de santé. Un texte de Richard Béliveau, paru le 15 octobre 2023 dans le Journal de Montréal. Une étude récente montre que les personnes dont la force manuelle de préhension est relativement faible ont des signes d'un vieillissement accéléré de leurs gènes, comparativement aux personnes plus fortes. Il est bien établi que la force musculaire a des répercussions positives sur la santé globale, en particulier en termes de prévention de l'ensemble des maladies chroniques. Cela est bien illustré par les résultats d'une étude réalisée auprès de 140 000 personnes, où on a observé que la réduction de la force de préhension, la poigne, était associée à un risque plus élevé de mortalité prématurée, et ce, indépendamment du statut socio-économique. Ces résultats sont en accord avec une étude réalisée en Suède sur des hommes jeunes, à la fin de l'adolescence, qui étaient évalués pour leur aptitude au service militaire. On a observé que ceux dont la force de poigne se classait parmi les plus faibles avaient un risque 20 % plus élevé de décéder avant la fin de la cinquantaine, comparativement à ceux qui étaient plus forts. Les mécanismes détaillés en cause demeurent encore inconnus, mais s'expliquent vraisemblablement par les nombreux effets positifs de l'exercice sur l'ensemble du corps. Les muscles sont en effet des organes très dynamiques qui, lorsqu'ils sont sollicités par l'exercice, relâchent de nombreuses molécules qui influencent positivement la fonction de plusieurs organes. Âge biologique. Selon une étude récente, ces effets positifs de la force musculaire impliquerait également un ralentissement du processus de vieillissement. Dans cette étude, les chercheurs se sont penchés sur la contribution potentielle de l'épigénétique, c'est-à-dire l'ensemble des modifications, la méthylation en particulier, qui s'accumulent dans l'ADN au cours du vieillissement. Plus ces modifications sont nombreuses, plus elles reflètent un vieillissement prématuré des cellules. Par exemple, deux personnes peuvent avoir le même âge chronologique, mais présenter des profils épigénétiques complètement différents selon leur hérédité et leur mode de vie, alimentation, exercice, stress, pollution, etc., et donc ne pas avoir le même âge biologique. En d'autres mots, nous ne vieillissons pas tous au même rythme, et une personne peut avoir en réalité un corps plus jeune ou plus vieux que son âge, selon le degré de modification épigénétique dans son ADN. Vieillissement prématuré. Il semble que la force musculaire, telle que mesurée par la force de poigne, pourrait influencer cette accélération du vieillissement. En utilisant un dynamomètre de main comme appareil de mesure, les chercheurs ont examiné la force de préhension de 1275 participants et, en parallèle, ont déterminé l'âge épigénétique approximatif de chacun d'entre eux à partir de leurs cellules sanguines. Ils ont constaté qu'en général, plus la force de préhension d'une personne était faible, plus son âge épigénétique était élevé, c'est-à-dire que son ADN présentait des signes d'une accélération du vieillissement. Étant donné que ces modifications à l'ADN accroissent le risque de l'ensemble des maladies chroniques, cela suggère donc que la diminution de la force musculaire représente un biomarqueur précoce de la vulnérabilité d'une personne à développer ces maladies. L'amélioration de la force musculaire représente donc un ingrédient essentiel pour vieillir en santé. Il est bien établi que la force de la main reflète la force de l'ensemble des muscles du corps, et les études montrent que l'ensemble des exercices de résistance, pas simplement ceux qui font appel aux muscles des bras, améliorent la force de préhension. Il est donc important d'effectuer régulièrement des exercices de musculation, même légers, pour améliorer sa force musculaire et vivre plus longtemps. C'était « Une bonne poignée de main est un signe de santé », un texte de Richard Béliveau, paru le 15 octobre 2023 dans le Journal de Montréal.
Le premier lien entre Québec et la rive sud s'effondre. Un texte de Mark Tyson, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse. Avant d'être et de demeurer le plus long pont cantilever au monde, le pont de Québec s'est effondré deux fois en cours de construction. L'ingénieur américain Theodore Cooper était le principal responsable de la première catastrophe. Le fracas s'est fait entendre à des kilomètres à la ronde. Ses échos ont résonné aux confins de la planète. Le 29 août 1907, le pont de Québec en construction s'effondre, pour la première fois. Sur les 117 ouvriers qui travaillent autour de la structure sud au moment du drame, 76 périssent, dont 33 Mohawks de Ganawagé. La plus jeune victime, Stanley Wilson de Saint-Romuald, n'a que 14 ans. Parmi les morts, on signale John McNaughton et Phileas Couture, le mécanicien et le chauffeur de la locomotive qui apportait un chargement de pièces d'acier aux ouvriers et qui a piqué du nez dans le fleuve. Plus heureux, D.B. Haley, qui travaillait à l'extrémité de la structure, se rappellera s'être soudainement senti tomber dans le vide. Citation : « J'ai réalisé que l'acier tombait plus vite que moi. Je me suis ensuite retrouvé profondément enfoncé dans l'eau. » Fin de citation. Revenu à la surface, il s'est agrippé à une planche qui flottait pour être secouru 20 minutes plus tard par une embarcation venant de la rive nord, relate William D. Middleton dans son livre « The Bridge at Quebec ». C'était notre Titanic à nous, 5 ans avant la tragédie maritime. « Grand désastre national », a titré la presse le lendemain. La plus longue travée au monde. Le nouveau pont promettait de battre le record de la plus longue portée au monde, détenu depuis 1890 par le pont de l'estuaire Firth of Forth en Écosse, qui se distinguait autant par sa difficile prononciation que par ses deux travées principales, faisant chacune 521 mètres de long. Le pont de Québec allait mettre à profit la même construction en porte-à-faux, ou cantilever, pour atteindre une portée de 549 mètres entre ses deux points d'appui. Bref, fierté. Le principe, à proximité de chaque rive, une structure métallique triangulée allonge deux bras de longueur similaire, l'un ancré au sol et l'autre en porte-à-faux, de part et d'autre d'une solide pile en appui sur le sous-sol rocheux. Au bout de leurs bras en porte-à-faux, les deux structures riveraines supportent une poutre centrale suspendue au milieu du fleuve. La construction est gérée par la Compagnie du Pont de Québec, constituée en 1887. L'ingénieur en chef de la société, Edward Hoare, n'a jamais travaillé sur un pont d'une portée supérieure à 90 mètres. La direction demande donc à un ingénieur consultant réputé de New York, Theodore Cooper, de recommander le meilleur projet parmi les soumissionnaires, en portant une attention particulière à celui de la société Phoenix Bridge de Phoenixville en Pennsylvanie, qui se signale par la légèreté de son coût et de sa superstructure. Rendu le 23 juin 1899, son rapport conclut que le projet de la Phoenix est « le meilleur au meilleur prix », raconte l'auteur Michel Lébreux dans son livre « Le pont de Québec ». Quelques mois plus tard, Cooper est engagé comme consultant pour diriger l'ensemble du projet. À peine nommé, il modifie le concept initial pour rapprocher les deux piles des rives en eau moins profonde. La décision est bien fondée, mais comme par hasard, elle fait passer la portée de 487 à 549 mètres, ce qui associera le nom de Cooper à la plus longue travée au monde. L'érection de la superstructure est entreprise en juillet 1905 par la Phoenix Bridge. Écarts inquiétants. Âgé de 60 ans quand il a accepté le mandat, Theodore Cooper est en mauvaise santé et ne se rendra jamais sur le site durant la construction. Pendant qu'il demeure à New York, un jeune ingénieur, Norman McClure, le représente sur le chantier. La construction va bon train jusqu'à la mi-juin 1907, quand un écart de 1,6 mm est observé dans l'aboutement de deux membrures. McClure rapporte le problème à Cooper qui lui répond « Ce n'est pas grave ». Comme le relate William D. Middleton dans son ouvrage « Bridge at Québec », d'autres écarts sont détectés pendant l'été et signalés à Theodore Cooper dès leur apparition. À la mi-août, Cooper demande par télégramme une explication à la Phoenix Bridge. L'ingénieur en chef de l'entreprise avance que les déformations des membrures remontent probablement à leur fabrication en usine. Theodore Cooper semble désemparé. Citation « Aucune des explications pour la membrure déformée ne passe l'épreuve de la logique ». Fin de citation, écrit-il à McClure. Citation « J'ai élaboré une autre théorie, qui est possible sinon probable. Les membrures ont été heurtées par les poutres suspendues utilisées pendant le montage, alors qu'elles étaient mises en place ou démontées. Vérifiez si vous ne trouvez pas de preuve du choc. » Fin de citation. McClure n'en trouve aucune. Le 27 août, alors que le fléchissement sur une des membrures principales s'est accru à 57 mm, un contremaître de la Phoenix Bridge demande l'interruption des travaux. Le lendemain, McClure se rend à New York pour discuter du problème avec Cooper. Le même jour, le contremaître relance la construction, conforté par l'ingénieur principal de la Compagnie du Pont de Québec, Edward Hoare. Le 29 août, après une courte rencontre avec McClure, Cooper envoie un câble urgent au siège social de la Phoenix Bridge. Citation « N'ajoutez aucune charge au pont avant d'avoir dûment examiné les faits. » Fin de citation, lui enjoint-il, sans savoir que les travaux ont repris entre-temps. Citation « McClure sera chez vous à 5 heures. » Fin de citation. McClure arrive à Phoenixville vers 17h15. Les ingénieurs réunis en urgence décident de reporter leur décision finale au lendemain matin. Mais il est déjà trop tard. À 17h30, la structure sud, qui se projetait en porte-à-faux sur 220 mètres au-delà de sa pile, se déforme, se recroqueville, puis s'effondre en 15 secondes. Un rapport d'enquête accablant. À peine trois jours plus tard, une commission royale d'enquête est instituée, formée de 3 ingénieurs civils réputés. Leur rapport de plus de 200 pages est déposé le 20 février 1908. La défectuosité des membrures fautives, citation, était due à un vice dans le tracé des plans, fin de citation, lit-on dans la version française du document. Ces plans étaient l'œuvre de Peter L. Slabka, ingénieur concepteur en chef de la Phoenix Bridge Company. Mais le, citation, tracé a été révisé et officiellement approuvé par M. Theodore Cooper, fin de citation, écrivent les commissaires. Citation, la rupture ne peut être directement attribuée à d'autres causes qu'à une erreur de jugement de la part de l'un et l'autre de ces ingénieurs. Fin de citation. Dans son édition du 16 novembre 1911, le journal Engineering News comparait le dessin du pont du Firth of Forth en haut, le funeste projet de la Phoenix Bridge pour Québec juste en dessous, puis la recommandation non réalisée d'une commission d'ingénieurs, et en bas, le concept finalement retenu de la St. Lawrence Bridge Company, complété en 1917. Non seulement Slabka avait sous-estimé le poids propre de la structure, mais ses calculs n'avaient pas tenu compte de l'allongement de la travée principale par Cooper. Quand l'erreur a été constatée, Cooper a tranché que malgré l'accroissement de la charge, la marge de sécurité sur les membrures critiques était encore suffisante, ce qui évitait de reprendre la construction à zéro. Seconde catastrophe. Le projet est repris en main par le gouvernement du Canada qui retient la proposition de la société montréalaise St. Lawrence Bridge. L'érection d'une superstructure plus costaude débute en août 1913. 3 ans plus tard, le 11 septembre 1916, il ne reste qu'à lever et fixer le segment central, remorqué au milieu du fleuve sur 6 barges. Et c'est une autre tragédie. Une pièce de l'appareil de levage se rompt et l'énorme poutre retombe dans le fleuve, entraînant dans la mort 13 des quelques 80 ouvriers. L'année suivante, le 17 septembre 1917, une nouvelle poutre est hissée sans encombre. Le pont ouvre à la circulation ferroviaire le 3 décembre suivant. Le premier lien tient bon depuis lors. Et Theodore Cooper? Brisé comme son pont, il a pris sa retraite après la catastrophe et s'est éteint dans la solitude le 24 août 1919, 2 jours après l'inauguration officielle du nouvel ouvrage par le prince de Galles. C'était 1907, le premier lien entre Québec et la rive sud s'effondre. Un texte de Mark Tyson, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse.